Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous écoutez du Trisac. Cube Radio.
On va parler de police avec Daniel Pilette, qui est professeur en finance et politique municipale. Madame Pilette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. D'abord, ça s'appelle Réflexion du SPVM sur la réalité policière au Québec. On sait que la ministre de la Sécurité publique a lancé cette espèce de livre pour repenser la police au Québec. Ma première question pour vous, c'est d'abord, pourquoi et comment avez-vous été approché par le SPVM pour travailler sur ce document?
Moi, je n'ai pas travaillé sur ce document-là. J'ai par contre déjà travaillé sur d'autres documents, notamment de la ville de Montréal pour ce qui est du développement économique et des coûts. Maintenant, le rapport Réflexion sur la réalité policière qui est produit par le SPVM aborde aussi la question des coûts et il aborde la question de l'efficacité. Alors, c'est un... Puis d'ailleurs, il ne fait pas l'impasse non plus sur la perspective politique. On mentionne dans le rapport, qui est relativement court, là, 48 pages à peu près, incluant les annexes, on mentionne dans le rapport le contexte de revendications, notamment aux États-Unis, quant à la définanciarisation de la police, pour donner davantage dans la prévention, dans le communautaire. C'est quelque chose qui est un peu importé au Canada aussi et par certains intervenants là, dans le territoire de Montréal.
Est-ce qu'on met trop d'argent dans les corps policiers, selon vous?
Ce qu'on voit, c'est que en fait, on en met un petit peu moins à la ville de Montréal que dans les autres villes du Québec. À la ville de Montréal, les dépenses policières représentent moins de 11% des dépenses de la ville. Et puis, parfois, c'est un peu davantage dans d'autres municipalités qui ont leur propre corps de police. Maintenant, il faut dire que les municipalités de moindre taille, même relativement importantes, n'ont en général plus leur corps de police et qu'elles sont desservies par la Sûreté du Québec.
Ouais.
Donc, la Sûreté du Québec donne la patrouille, une certaine efficacité au niveau de la patrouille, les services de gendarmerie, mais justement, ce que le rapport dit, c'est que oui, à la prévention, mais les services policiers peuvent en faire aussi. Mais puis là, on présente des solutions pour ça, mais que c'est beaucoup plus important de gagner en efficacité et qu'il y a des gains, dans certains cas, faciles à faire. Par exemple, on cite les rapports d'événements. Ce qui est proposé, c'est un peu l'équivalent de ce qui est proposé actuellement en santé, où est-ce que les systèmes, on le voit en santé avec la pandémie, les systèmes ne communiquent pas bien entre eux.
Ouais.
Alors, il y a toutes sortes de structures, mais
selon vous, Mme Pilette, là, que ce soit en santé ou pour la police, là, de centraliser les services comme ça, là, est-ce qu'on améliore le financement du service? Est-ce qu'on améliore le service même à la population? Pensez-vous que c'est une bonne idée?
C'est-à-dire que ce qui est proposé comme équipe mixte, là, c'est dans des secteurs bien précis de criminalité. Alors, on en identifie quelques-uns, équipe mixte nationale, là, SQ, SPVM, et peut-être d'autres corps aussi, mais où on a déjà de l'expertise, puis où, en fait, les crimes ne sont plus territoriaux. Par exemple, en matière de crimes économiques, c'est vrai que là, il y a toute une expertise qui est en développement et que les crimes ne sont plus territoriaux. Même on a des criminels à Montréal qui vont qui de Montréal ou des États-Unis vont faire de la criminalité économique transfrontalière en quelque sorte. Tout ce qui est cybercriminalité y compris l'exploitation des jeunes sur Internet. Alors là, c'est complètement ridicule d'avoir un service de police, par exemple à Montréal, qui a développé une grande expertise, mais qui ne puisse pas agir sur la juridiction de Longueuil ou de Laval, alors que ces villes-là bénéficieraient de la même expertise. Et même nous, à Montréal, on en bénéficierait parce que ça, au lieu de communiquer avec un autre corps policier, ça serait déjà prévu dans l'organisation policière. Même chose avec les homicides. Certains homicides puis il y a une question de délai aussi. C'est parce que pour être efficace dans certaines criminalités, il faut que la réponse soit rapide. Et puis, si un dossier se retrouve avec un corps de police qui finalement ne pourra pas l'enquêter, mais il y a des délais, il y a des systèmes de communication qui ne sont pas toujours très compatibles et ça nous amène à des dossiers froids qu'on essaie de récupérer après des années, des meurtres non résolus.
Donc, au lieu de s'adresser un pilote à une force policière, là, un corps policier là, qui n'a pas les ressources d'intervenir lors d'un événement, là, d'un meurtre, ben là, tu vas directement à un guichet unique pour dire que sur le territoire, il y a ce problème-là, il y a ce crime-là qu'il faut résoudre, puis là, tu as des ressources immédiatement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas le client qui s'adresse tout de suite à l'équipe mixte, mais c'est le service policier qui constate l'événement, qui tout de suite va le transmettre à l'équipe mixte.
Donc ça, c'est une bonne idée.
Pour l'enquêter. Moi, je pense que oui, et surtout dans des secteurs qui demandent, comme les homicides et la cybercriminalité, qui demandent beaucoup de moyens technologiques. Même chose avec l'identification judiciaire. Mmh. On sait que maintenant, ça progresse beaucoup. Il y a des nouveaux experts qui sont formés dans certaines universités qui entrent à la Sûreté du Québec dans l'identification judiciaire, puis à la Ville de Montréal aussi. Alors, pourquoi pas en faire profiter tout le territoire québécois parce que tant qu'à investir des moyens technologiques, il faut que on leur donne leur meilleur déploiement, si on veut, le meilleur service à tout le monde.
Quand vous parlez d'un pilote de politique municipale, on parle évidemment de compétition aussi, là, parce que tout le monde veut avoir son morceau de tarte, mais c'est aussi de la compétition en termes d'uniforme. Là. Si t'as pas la même couleur d'uniforme, c'est réel, ça, là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais sauf que il faut... Ça, c'est les divisions traditionnelles, là, où les juridictions territoriales étaient très importantes. Puis, historiquement, à peu près toutes les villes au-dessus de 5000 habitants ou 10000 habitants avaient leur corps policier. Donc, cette compétition, cette concurrence dont vous parlez, elle était beaucoup plus grande autrefois. Mais on est entré, comme le crime est entré dans une période de professionnalisation, maintenant, les criminels sont très professionnalisés. Ils ont des experts qui travaillent pour eux en fiscalité dans toutes sortes de domaines. Il faut qu'on arrive à un peu la même chose au niveau des corps policiers. Autrement, la lutte à la criminalité, elle est perdue d'avance. Alors, il faut se professionnalise.
Faut que les corps policiers municipaux, là, on parle pas de la Sûreté du Québec, faut que, là, tout à coup, faut repenser tout ça en termes de territoire ou même de frontières qui n'existent plus, là, quand on parle de cybercriminalité, on parle de criminalité qui dépasse le quartier, le poste de quartier là, qui est au coin de deux rues.
Oui, tout à fait. Justement parce que le crime organisé est très professionnalisé et faut dire que historiquement, il y en a eu des grands passages comme celui-là. Le premier grand passage, il s'est produit il y a 50 ans quand on a mis sur pied justement le SPVM qui à ce moment-là était le service de police de la communauté urbaine de Montréal. Et là, on a commencé parce que avant il y a 50 ans, avant 1969-1970, là, chaque municipalité de la ville de Montréal, Ville-Mont-Royal, Westmount, etc., avait son propre corps de police. Puis, il y avait la ville de Montréal qui avait le sien beaucoup plus important et beaucoup plus avancé technologiquement. Alors là, on est arrivé avec toute l'île desservie depuis 50 ans. Mais c'est sûr que depuis ce temps-là, la moitié de la population reste à l'extérieur de l'île. La moitié de la population du Grand Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal, les 82 municipalités ou 81, habitent à l'extérieur de l'île. Donc, c'est sûr que de limiter un grand corps de police à l'île de Montréal, 50 ans plus tard, ça n'a plus beaucoup de sens, du moins pour la grande criminalité.
Mais là, on parle pas des syndicats. Là. Les syndicats vont boquer. Là. Les syndicats de chaque corps policier n'acceptera pas ça.
C'est-à-dire que parfois, il y a des avantages hein, à accepter ces choses-là. On l'a vu, par exemple, quand le service du SPVM a été étendu à la surveillance du métro. On a vu que, oui, il y avait un syndicat, mais que les agents de la paix du métro, ceux qui pouvaient passer au service du SPVM, y trouvaient un avantage parce que ça leur donne accès à une carrière beaucoup plus stimulante.
Ouais.
Là. Alors, donc, pour ceux qui font la gendarmerie, ça va rester tel quel, mais pouvoir participer à des équipes mixtes nationales avec plus de moyens technologiques, c'est ça qui intéresse beaucoup de jeunes pour aussi les attirer vers la carrière policière.
Mais en même temps, hein, Pilette, là, c'est quoi, l'UPAC coûte 40 millions aux Québécois chaque année, là, puis tout le monde en est déçu. On voit que c'est des corps policiers qui ont essayé de travailler ensemble, mais c'est le bordel, ça a pas fonctionné. C'est pas un bon modèle là, si on se fie sur l'UPAC.
Non, si on se fie sur l'UPAC, évidemment, mais là, toute la question, c'est de savoir, est-ce que l'UPAC aurait dû être détaché comme elle l'a été de la Sûreté du Québec, avoir une structure plus autonome et plus politique, nommée par l'Assemblée nationale, donc en parallèle avec la SQ. Là, c'est pas de ça dont on parle dans le rapport ici.
Ouais.
On parle d'équipe mixte, mais dont les gens resteraient... Donc, on parle, en fin de compte, de participation de différents corps policiers à des équipes mixtes,
ouais,
mais avec toujours les mêmes employeurs, mais des meilleures perspectives de résultats, puis des meilleures perspectives de carrière plus intéressantes pour les ressources humaines. C'est de ça dont on parle ici.
Okay.
Je pense pas qu'il soit question d'un corps policier autonome différent. Là.
OK. En conclusion, il faut conscrire, Mme Pilette, là, mais y croyez-vous? Pensez-vous que c'est réaliste?
C'est réaliste. Toute la question est de savoir dans combien de temps est-ce. Mais Mme Guilbeault, parce que le rapport est présenté quand même à Mme Guilbeault, qui semble être une personne de décision. Alors, toute la question, c'est pas tellement si ça va se faire un jour, mais c'est davantage dans quel délai ça va se faire.
Mm-hmm.
Que le calendrier politique, compte tenu de la COVID, va le permettre. Ça, c'est un peu une autre chose, mais je pense que la question, c'est plus dans quel délai ça va se faire.
Très bien. Danielle Pilette, professeure en finance et politique municipale. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée.
C'est un plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Merci.